RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied, avec notre Marocain, notre chameau à nous, le Dr Love, Johan Durand qui est là. Salut Johan.
Salut, salut à tous.
Ça va? Salam alaikum.
Salam alaikum, voilà, ça va.
Bon, tu t'es régalé, t'as coupé un peu?
Impeccable, trois jours au soleil, trois jours à faire du dromadaire.
Excellent.
Des vraies vacances. J'ai
Est-ce
rien
que tu
fait.
Cours plus vite qu'un dromadaire?
Oui, parce que je les ai vus, à part bouffer de l'herbe, ils font pas grand chose.
Ah, méfie-toi, quand ça se met en action, à mon avis, ça doit courir vite quand même.
Je sais pas, j'ai pas essayé, mais ouais, c'est pas impossible.
Ok. Continuez de nous
suivre.
Je
suis plus affûté que les dromadaires. Hein.
Ouais, ça, j'ai pas de doute. Évidemment, toi, tu traverses pas le désert.
C'est
en autosuffisance, c'est ça la différence.
Oh, les pauvres.
Continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Strava, sur Insta, sur TikTok, sur les plateformes Apple, Spotify, Deezer et
partout.
YouTube. On est là aussi en vidéo, donc n'hésitez pas, si vous aimez RMC Running, vous pouvez nous suivre partout. On est ravis aujourd'hui parce qu'on reçoit un ami. Un ami nous rend visite, d'un Camperia, notre marathonien, l'un de nos marathoniens préférés, champion de France, recordman du monde RMC, il est à mes côtés. Salut Dink.
Hello, hello. Ça
Quel bonheur de te recevoir comme d'habitude.
Ouais,
ça va?
Ça fait plaisir d'être là aussi. Hein.
T'es en forme?
Ouais, ça va.
Bon, on a un grand projet à annoncer. Je rappelle que Duncan, c'est quand même 2h09 réalisé à Séville il y a quelques mois, mais Duncan va nous présenter son magnifique projet. Ce Tour de France en courant, 100 km par jour, même un peu plus de 100 km par jour, pendant 30 jours, 3000 km à parcourir. Il est cinglé, mais vous le savez.
Ah oui, il n'y a plus de
tout ça. Mais l'intérêt, c'est d'établir un record du monde d'endurance, hein, Duncan, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Voilà.
C'est un intérêt un peu. Il y a un double intérêt. C'est aussi un petit côté social, mais j'imagine on va en parler aussi.
Exactement, le côté social, parce que ça te ressemble beaucoup aussi. Le rapport avec les marchés de France, ça aussi, c'est passionnant à raconter. Magnifique projet, vous allez le voir, vous allez vous régaler pendant une heure à peu près. Donc, enfilez vos baskets, attachez vos lacets. Le grand dingue va nous faire visiter la France aujourd'hui.
RMC Running.
On est donc ravis de te recevoir et on te reçoit dans le Money Time parce que Duncan, ton grand projet va bientôt voir le départ donné parce que c'est la semaine prochaine. Donc voilà, on est vraiment à quelques jours de tout ça. Avant d'expliquer toutes ces histoires, comment tu vas toi déjà? Comment ça va, Dink?
Bah écoute, moi ça va bien. Hein. Je reviens de Font-Romeu, je me suis entraîné un peu là-bas et voilà, on s'entraîne un peu différemment pour un projet comme ça, mais ça va.
Alors, faut que tu nous expliques tout ça. Je le disais, tu restes un marathonien ultra performant, 2h09 à Séville, donc on t'avait félicité. Mes félicitations une nouvelle fois. Tu es au très haut niveau français et c'est la question qu'on se pose, c'est avec ce projet, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ta vie d'athlète pro entre parenthèses ou tu considères ça comme une continuité, comme ça, une sorte d'échappatoire avant de te reconcentrer sur ta carrière d'athlète professionnel?
Ouais, bah, beaucoup de personnes vont penser que ça n'a rien à voir avec ma vie d'athlète. Moi, je pars du principe que si, mais bon, j'ai une façon de penser des fois qui est un peu différente de pas mal de monde, donc...
Donc pour toi il n'y a rien qui est mis de côté quoi. Toi tu continues évidemment à vouloir perfer sur marathon, à avoir des performances qui descendent et un chrono qui peut encore descendre quoi.
Ouais, moi je me dis juste qu'au lieu que ce soit un défi de chrono là, c'est plus un défi de distance, mais qu'au final on reste sur de la course à pied, on reste sur de l'endurance. Je continue à m'entraîner et je pars du principe que bah, après j'arriverai à revenir à mon meilleur niveau et même battre mon record peut-être en octobre.
On
sur
sait.
Marathon, je parle.
Voilà, c'est
ça. La caisse sera faite, ouais, ça c'est sûr. Yodu, toi, tu as entendu parler de ce projet. Évidemment, Duncan, c'est une personnalité atypique. Mais rappelons systématiquement, parce qu'il ne faut pas le voir uniquement comme ça, c'est un marathonien de très haut niveau. Duncan, 2h09 sur marathon, vous avez quasiment le même record. Voilà, ça reste une référence française du marathon, quoi. C'est ça que je veux dire.
Ah bah oui, 2h09 05 à Séville en février dernier, c'est quand même une perf de référence. Voilà, c'est Duncan. Il a eu des moments de galère aussi, quelques années compliquées après avoir fait des très bonnes perfs, un peu comme moi, 2020, 2021, 2022. On a des passages à vide. Après, surtout, lui, il s'était aussi orienté vers le trail, hein, on s'en rappelle. C'était pareil, c'était un peu un défi fou. Et finalement,
voilà.
derrière ça, il est revenu sur marathon et il a battu son record. Donc, qui dit que derrière ce défi de 3000 km, dans 6 mois plus tard, il ne pourra pas de nouveau battre son RP. Ouais,
vous avez ce point...
Merci, Yoann.
Vous avez ce point commun avec Yoann d'être très attachant et d'être ami avec tout le monde, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'on n'a jamais entendu une personne nous dire du mal de Duncan Perilla, pareil pour Yodu. Duncan, toi, tu côtoies évidemment tous tes potes marathoniens de très haut niveau tout au long de l'année. Qu'est-ce que tu dis en fait? Tu dis, moi je peux pas avoir le, entre guillemets, leur vie, c'est-à-dire être focusé sur deux objectifs par an, vraiment rester là-dedans. Il te faut quelques respirations dans l'année, quelques, parfois comme ça, des projets un peu fous.
Ouais, bah après je pense que chaque personne est différent ouais. et tout le monde vit son sport un peu différemment quand même, mais c'est vrai que j'ai, certains vont dire que ma façon des fois de m'entraîner n'est pas très professionnelle, ou justement le fait de partir un peu trop sur des trucs différents plutôt que d'être hyper focalisé. Y en a qui vont un peu juger ça. Après, moi, je trouve que justement, ça fait du bien des fois de sortir du cadre pour pouvoir, quand tu reviens, être complètement débridé et pour pouvoir continuer à progresser. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est une façon un peu différente de voir les choses.
Comment t'as vécu, toi, parce que pour toute votre génération et vous tous qui étiez marathoniens français de haut niveau, bah, c'était particulier, parce qu'il y a eu les Jeux de Paris en 2024. Toi, c'était un de tes grands objectifs de carrière aussi. Malheureusement, t'as pas pu te qualifier, réaliser les minima et faire partie des trois meilleurs français. Comment tu l'as vécu? Comment t'as vécu ces Jeux de Paris, toi, d'ailleurs?
Non, moi je l'ai bien vécu parce qu'au final, déjà avant, je savais qu'il y avait quelques athlètes qui étaient quand même meilleurs que moi, donc je savais qu'il n'y a que trois places. Trois places, c'est vraiment pas beaucoup, donc honnêtement, moi je me donnais ça un peu comme objectif, surtout pour progresser,
ouais.
plus que pour vraiment y aller, parce que pour moi, j'étais quand même assez lucide sur mes chronos et je savais que j'étais quand même un peu derrière certains. Là, éventuellement, tu vois, pour 2028, je peux peut-être un peu plus me le dire, vu que j'ai fait de 9,02 et que en plus j'ai réussi à courir sur 2h06 pendant 30 km. Donc c'est vrai que là, je pourrais potentiellement un peu plus y croire, mais c'est vrai que moi, à Paris, j'étais content finalement d'aller à Paris pour encourager. J'avais un de mes meilleurs amis, justement, qui s'était qualifié sur 3000 mètres cibles, Nicolas Daru. Donc j'étais là pour supporter et au final, c'était top de pouvoir encourager aussi. Et puis, le marathon pour tous, finalement, c'était un peu une façon de faire mes JO à moi aussi.
Oui. Bon, tu l'as, t'as fait quoi? Deuxième, c'est ça?
Troisième au scratch, premier français.
Voilà, premier français du marathon pour tous dans ces conditions si difficiles. 2h09, ça t'a rassuré, ça t'a conforté quand même. Tu t'es dit quand même, ça confirme le potentiel que j'ai. T'étais à 2h12, t'as été deux fois champion de France, une fois validé. Mais là, aller chercher sous les 2h10, les 2h09, et tu dis courir 30 bornes sur 2h06, ça t'a conforté dans ton idée que t'avais quand même un niveau exceptionnel?
Ben, j'avoue que jamais j'aurais pensé pouvoir faire 2h09 en passant au 30e sur des bases de moins de 2h07. Ça, clairement, j'aurais pas cru. Ça faisait quand même quelques années où il y avait des périodes où je savais quand même que je valais potentiellement 2h10, voire un peu moins de 2h10. Mais là, c'est vrai que la façon dont j'ai couru, c'est vrai, bah, j'étais avec Johan au Kenya, c'est vrai que j'ai été assez fort, focus, ouais. Et j'étais, ouais, je courais.
Tu te sentais solide, ouais, très fort.
Ouais, c'était la première fois où vraiment j'étais tout le temps sur les fartleks kenyans, je finissais devant, quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que même sur les séances, je faisais des chronos, enfin, j'étais sur des. La plupart des séances, j'étais sur des temps en altitude presque qui étaient équivalents en pleine, alors que normalement on perd 10-12 secondes.
Ouais,
donc, c'est vrai que moi, les gens, il y en a plein qui me disaient, ouais, tu peux faire moins de 2-8, des trucs comme ça, mais 2-6, c'est sûr que c'était un peu suicidaire par contre.
Ouais, mais c'est beau quand même d'avoir réalisé cette performance. T'as couru longtemps sur 2-7, malheureusement entre guillemets, hein, ça se termine sur 2-9. Johan, quel souvenir tu gardes de cette période? Tu l'avais senti très fort aussi, dingue à l'époque, ouais?
Ah oui, on s'était entraîné ensemble parce qu'on était dans le même camp d'entraînement, là, le Runix Athletic Center, et c'est vrai qu'il était fort, et donc moi à Séville, je le voyais clairement, oui, sous 2h10, mais après, le problème du marathon, c'est que c'est le jour J, et que la descente d'altitude, elle peut être compliquée, le voyage, il peut être compliqué, donc tu sais pas vraiment le jour J comment ça va se passer, et là, il a réalisé ce qu'il valait, voire même peut-être 2h08, même moins de 2h09, ça aurait été largement envisageable. Donc non, c'était très bien. Mais le stage, il avait quand même... il avait fait du Duncan, il avait beaucoup borné, il avait fait beaucoup de volume à des semaines à plus de 200. Mais malgré tout, il était un peu... Il écoutait, tu vois, quand on lui disait « Attention, Dunk, n'en fais pas trop », des fois, il allait pas faire le footing de trop.
Incroyable.
Que d'habitude, il aurait pu faire.
J'en reviens pas.
Ouais, c'est écouté. Vrai que je pense que j'ai un petit peu plus écouté. J'ai justement un nouveau coach un peu depuis justement octobre d'avant, et c'est vrai que j'ai été un peu plus à l'écoute, et ça m'a permis peut-être de me canaliser aussi un peu plus. Ouais.
Bon, allons-y sur ce magnifique projet d'un camp. C'est pour ça que tu viens, ce projet qu'on a nommé Jour de marché. C'est ton équipe qui l'a nommé comme ça. Tu vas tout nous expliquer. Les grandes lignes, je les ai données. C'est un Tour de France en courant sur 30 jours. Il n'y a pas de jour off. à peu près 100 km par jour, même si c'est un peu plus. Mmh. Bah, raconte-nous la genèse. Comment ça a cheminé comme ça dans ta tête pour aboutir à ce beau projet alors ?
Alors vraiment, si on part vraiment du début, c'est quand je suis rentré en France des États-Unis en 2019.
Ouais.
Je me suis dit, putain, la France, c'est quand même beau, ça me manquait, j'avais vraiment le mal du pays à cette période-là. Et c'était au début un peu avec mon frère, on en parlait, ah, pourquoi pas, pendant les vacances, faire un peu le Tour de France en run and bike ensemble. Mais du coup, ça, c'était vraiment... je venais limite de reprendre la course à pied depuis les États-Unis.
Ouais.
Voilà. Et puis finalement, un peu, l'idée, un peu, c'est un peu estompé. Et c'est vrai que par contre, j'y pensais toujours un peu de temps en temps dans un coin de ma tête et je m'étais dit, je me souviens plus exactement quand, mais l'an dernier ou il y a un an et demi, deux ans, je m'étais dit, bah, tu sais quoi, si un jour tu arrives à faire moins de 2h10, et ben, lance-toi un peu sur ce projet.
Et bravo, là, ça a été fait.
Voilà, et du coup, c'est vrai que là, à partir de mars, j'ai commencé un peu à pas mal réfléchir au truc. J'en ai parlé à Mathieu Badier, le directeur marketing chez Oka, qui m'a dit, bah ouais, c'est un beau projet, ça te ressemble pas mal. Voilà, qu'est-ce que Oka en pense, enfin au niveau celui qui gère les athlètes.
Bah bien sûr, ouais.
Et voilà, et au final, tout le monde m'a dit, bah vas-y, si c'est ce que tu veux faire, vas-y, lance-toi dessus. Et après, ça a un peu évolué. C'est vrai qu'on voulait un truc qui a un petit peu plus de sens. Et voilà, moi, je viens d'une famille où mon grand-père... Il vivait toute sa jeunesse à la ferme. Après, il était parti à Annecy pour ouvrir une boucherie. Il avait justement traversé la France pendant la résistance, parce qu'il est de 1919.
D'accord.
Il est plus avec nous aujourd'hui. Mm-hmm. Mais du coup, on s'est dit, bah voilà, c'est aussi ça peut être une façon un peu de lui rendre un peu hommage,
ouais,
que de faire justement les tours de marché, voir vraiment les agriculteurs, les gens, les paysans, tout ça. Et voilà, c'est un peu le deuxième un peu plan. Il y a le côté performance avec un objectif de record du monde. Donc c'est vrai qu'on part sur plus de 3000 km sur 30 jours. Et en plus de ça, il y a un côté où on va faire le tour des marchés de la France.
Voilà, donc tu as les deux côtés. L'aspect performance, on va aller faire, donc tu l'as dit, plus de 3000 km pardon, sur 30 jours. Et l'aspect participatif, les marchés, le symbole de la France, hein, finalement, les marchés où tout le monde se retrouve, où tout le monde est mêlé, le côté très populaire. Et c'est ça qui t'a plu dans cette idée, en fait.
C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, de voir un peu justement. Et en fait, tu vois, enfin, même voyager en France, tu vois, c'est ça qui est cool, c'est
ouais,
qu'en fait, il y a des régions qui sont hyper différentes. Mmh. On a la bouffe, elle est bonne. Enfin, tu vois, à chaque endroit, l'idée, c'est de manger un peu local, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Donc, ça, même moi, en termes de plaisir, vu qu'il y aura beaucoup de souffrance, rien qu'à titre personnel, ça va me rajouter un plaisir supplémentaire de me dire, ah bah voilà, j'en sais rien, là, je suis à tel endroit, je vais manger tel repas, tu
ouais,
vois,
c'est
et ça, c'est cool.
Johan, quand Dink t'en a parlé de ce projet, qu'est-ce que t'en as pensé ? On l'a dit, ça lui ressemble. Est-ce
oui,
que tu trouves ça magnifique ? Parce que là, on parle effectivement du côté participatif, mais il y a une vraie performance sportive. Enfin, c'est
bah,
c'est gargantuesque ce qu'il attend.
Il faut se rendre compte de ce que c'est. Hein. Enfin, je ne sais pas sur quelle table horaire tu as prévu de courir les 100
km,
mais c'est une vraie performance sportive. Ça demande une logistique de dingue, une organisation de dingue. Et mêler ça à ce suivi des marchés locaux. Moi, je suis fils d'agriculteur, hein, je suis fils de viticulteur. Donc, moi, les marchés, je connais bien. Et c'est vrai que c'est vraiment le cœur de la France. C'est le poumon de la France, ces trucs-là, c'est dingue. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est surtout... on sent les Français très attachés à ça. C'est-à-dire que moi, le mercredi et samedi à Bergerac, les deux jours de marché, c'est les deux jours où ça vit. Sinon, si tu viens lundi matin à Bergerac, c'est
ouais,
compliqué. Il y a deux jours où ça bouge, c'est les jours de marché. Et effectivement, mais les salles d'un camp, il va se régaler. Il va
c'est
pouvoir
sûr,
manger du canard dans le sud-ouest, des huîtres à Marine-Oléron.
Ouais, c'est prévu. C'est prévu. Évidemment, tu vas en faire un documentaire parce qu'on veut voir tout ça. On veut voir ces
ouais,
images et tout. Mais parle-nous de... Avant de parler de la perf sportive, la perf logistique, comment tu t'organises, comment ça va se passer concrètement?
Connaissant l'organisation de Duncan, là j'ai...
Ah mais je pense qu'il est... Là ils sont très staffés là, je
ouais,
pense.
Ouais,
ah,
tu me sous-estimes un peu parce que là, ces dernières semaines, j'avais un boulot à temps plein.
Ouais, bravo. Ouais.
On était un peu plusieurs à travailler dessus, mais c'est vrai que je passais pas mal mes journées justement à gérer, que ce soit avec les partenaires, que ce soit justement sur le parcours, sur pas mal de choses.
Tracer les routes, ouais.
Ouais, à tracer les routes déjà aussi, ouais, et à faire en sorte que je puisse aller d'une ville à une autre et que la distance,
ouais,
elle soit ni trop courte ni trop longue.
Bah bien sûr.
C'est pas forcément évident.
Ouais.
du coup, voilà. C'était quoi,
c'était ça, la logistique, comment tu t'organises. Là, tu m'as montré des photos en exclusivité. Ça y est, tout est organisé. Tu sais comment tu vas dormir, etc. Quoi. Tu vas pas aller chez l'habitant. Tu vas pas toquer à la porte du poissonnier. Alors, et dire.
Donc, on va être une équipe de 5.
Ouais.
Avec globalement un community manager qui va être mon frère, un vidéaste, Rabat Wally.
Rabat qu'on connaît bien.
Ouais. Du coup, il y aura ma copine qui va s'occuper de la logistique et un autre bon pote qui va s'occuper aussi de la logistique. Donc c'est pareil, ça va être conduire le camping-car, ça va être être sur le vélo et qu'on a, un vélo, on a récupéré un vélo justement sur lequel le caméraman peut s'asseoir pour qu'on puisse filmer.
Okay.
Ça va être après gérer justement l'alimentation de l'électricité, gérer l'eau, gérer beaucoup de choses en fait. L'eau pour se doucher, mais comme l'eau pour boire, mais comme la nourriture, comme gérer un peu tout. Moi, l'idée, c'est que j'ai le moins de choses à faire, que je m'économise le plus possible.
Et que tu sois focus sur ta performance sportive.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ça c'est sûr. On parle de Tour de France, c'est un vrai Tour de France. Hein. C'est-à-dire que tu vas vraiment faire le tour de la France. Donc évidemment, tu mettras étape par étape. Nous, on a eu la chance de voir le parcours. C'est un vrai Tour de France et tu pars de chez toi, de Grenoble.
Hein. Ouais, je pars de Grenoble. Alors au début, c'était justement, en un mois, c'était un peu difficile de faire le Tour de France.
Ah
donc,
oui.
Ce qui se passe, c'est que les étapes, l'étape d'arrivée, on part pas forcément de l'arrivée le lendemain.
Ouais.
Y a des fois des petits passages où on va avancer en camping-car pour justement pouvoir traverser la France entière parce que justement, on fait Marseille, on va jusqu'à Biarritz, on va jusqu'à Brest, on va jusqu'à Dunkerque, à Strasbourg.
Ouais. Biarritz, Brest, déjà, ça me donne mal au crâne.
Ouais, donc voilà, on fait vraiment les quatre coins de la France. Donc c'est ça aussi la chance d'avoir un camping-car et de pouvoir avancer avec, c'est que ça permet de visiter vraiment les quatre coins de la France.
Ouais. On a parlé avec Yodu du rythme que tu allais adopter. Mmh. Est-ce que tu as réfléchi à tout ça? Est-ce que tu as un plan de course comme ça qui est établi alors?
Ouais, alors forcément ça va évoluer parce que c'est pour ça que j'appréhende un petit peu, c'est que c'est un truc que j'ai jamais fait, courir 100 km dans une journée, clairement ça se fait, c'est plus sur 110, 115 km sur pas mal de jours, mais par contre comment ton corps réagit au bout d'une semaine avec la fatigue, avec comme on disait, des fois il y a des jours où c'est un peu plus difficile, où tu peux être un peu malade, bah tu te dis pas bah non je suis fatigué aujourd'hui, je prends un jour off, parce que si tu prends un jour off après, c'est-à-dire que le lendemain tu dois refaire 15 km de plus pour rattraper le retard.
Eh ouais.
Du coup, j'appréhende un peu en tout cas.
Et t'as un rythme en tête?
Le rythme. En fait, je m'étais dit que j'irais pas plus vite que 15 km/h parce que déjà, ça risque d'être sinon trop traumatisant.
Ce qui peut vous sembler fou à vous qui nous écoutez, mais ce qui est un rythme très confortable pour des athlètes comme Yodu ou comme Dunk. Hein. Toi, t'es encore en récupération active quand t'es à 15 à l'heure. Quoi.
Ouais, bah à 15 à l'heure, je suis à 120 en fréquence cardiaque. Des fois 115,
tu vois.
Donc, voire 110, mais du coup, il y aura quand même des moments où j'irai peut-être probablement un petit peu plus vite, tu vois, sur le début, quand je suis les moments où je suis un peu frais, tous les cas, je serai vraiment dans le contrôle, parce que moins tu vas vite, en plus, moins c'est traumatisant, moins t'as un impact au sol qui est important, donc l'idée, c'est vraiment, quand je me sens vraiment bien et que j'ai envie, entre guillemets, d'aller vite, je me limite à 15 km/h, la majorité du temps, je pense que je serai plutôt vers les 13, 13,5, j'ai un peu voulu regarder un peu par rapport à ma VAP à Saint-Jacques, Saint-Jacques by UTMB, sachant que
la VAP, c'est la vitesse ajustée à la pente,
par rapport à Duplat, pour voir quelle allure me va bien pendant un effort long, sachant que c'était une course, donc dans l'idée, je suis censé aller plus lentement que pour une course.
T'es parti un peu à fond, en plus, ce jour-là.
C'était surtout à l'UTMB que j'étais parti un petit peu plus vite, mais oui, ce jour-là, il y avait des passages, en tout cas, où j'avais aussi un peu accéléré, du coup, je sais qu'en fait, à 13,5 km/h, en tout cas, vraiment, je peux tenir assez longtemps.
Ouais, c'est ça.
Surtout que là, ça va être un parcours, normalement, qui ne devrait pas être trop technique dans l'ensemble. Donc, une bonne partie de la course sera plus vers les 13, 13,5. Quand je serai un petit peu plus fatigué, forcément 12. Et après, les moments, c'est surtout post-repas, vraiment, où les coups de barre, tous les moments comme ça, où je dois courir, je serai vers les 10. 10 km/h, c'est une allure, quand tu viens de manger, forcément, tu ne vas pas commencer à courir à 13, 14 km/h.
C'est ça.
Qu'il faut digérer, parce que t'as pas envie d'aller aux toilettes 2 minutes derrière.
Parce que là, on en parle, mais pour qu'on se rende compte un peu de la difficulté de la chose, pendant 30 jours, ça va être entre, si je donne une fourchette, entre 7 et 9 heures d'effort, chaque jour.
10 heures à peu près.
10 heures.
Parce que tu vois, 115 km.
10 heures de course à pied pendant 30 jours d'affilée, quoi.
C'est ça, ouais. dans une journée. Sachant qu'en plus de ça, il faut ajouter le fait qu'on va passer dans les marchés. Hein. Moi, quand je marche, en fait, c'est 30 jours où je compte que la course à pied.
Oui, bien sûr.
Les parties où je marche, tu vois, où je traîne dans le marché, je le compte pas.
Ouais,
mais déjà, ça fait un peu de temps de perdu.
Tu n'as pas une chaise roulante pour traîner dans le marché, non? Poussé par ton frère? Non, pourquoi pas?
Mais bon... Ouais.
Non mais c'est beau. Hein. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus, Johan, toi qui es un spécialiste, et qu'est-ce qui te fait le plus peur pour dingue? C'est l'accumulation des kilomètres, les jours d'effort, 100 jours off.
100 jours off, 30 jours à plus de 100 bornes, ça me paraît dingue musculairement. Alors après, aujourd'hui, les chaussures sont quand même beaucoup plus amortissantes. Hein. On en parle assez régulièrement, donc tu peux quand même beaucoup plus cumuler d'un point de vue trauma, c'est moins traumatisant. Mais malgré tout, c'est l'allure qu'il veut mettre sur ses 100 km, quoi. Courir à 12,5, 13, 13,5, 14, c'est des vraies allures de coureur de 100 bornes. Et ça, du coup, 30 jours d'affilée, quoi. Donc, c'est dur, ouais. C'est pas facile, hein, ça.
Est-ce que tu as pris des conseils auprès des spécialistes? On pense souvent à Guillaume Ruel, qui est un vrai acharné, qui a le record d'Europe du 100 km, qui est un mec très fort et qui s'envoie des volumes insensés. Tu as parlé avec lui? Il t'a donné des conseils?
Ouais, j'ai parlé avec lui, justement. En fait, je suis tombé d'ailleurs sur lui à Font-Romeu, sur un footing par hasard.
Ok.
Le premier conseil qu'il m'a donné, alors justement, c'est un truc que je ne m'attendais pas du tout. Il m'a dit prends bien des pansements, parce qu'il m'a dit en fait, ton pied, avec l'enchaînement des kilomètres, tu vas avoir des ampoules, des vraies ampoules.
Obligatoire,
Et en fait, avec la fatigue, le problème, c'est que c'est pareil, ça peut vite un peu s'infecter et que tu ne te retrouves pas à être sous antibio et plus pouvoir courir.
Okay.
C'est un truc qui peut arriver assez souvent, tu sais, avoir une ampoule ou un des frottements, ça devient un peu rouge. Ça n'arrive pas qu'au Kenya de devoir prendre des antibio parce que. Il y a une petite bactérie qui est passée dans la plaie, quoi.
On connaît ton profil, on sait que tu es un passionné de course à pied, c'est une passion qui est ancrée en toi, donc courir, tu adores ça. Est-ce que l'aspect mental du défi te fait peur un peu ou pas du tout?
Oui, complètement. Du coup, c'est pour ça que j'essaye de pas trop y penser.
Ouais.
Je sais que... justement, quand j'avais fait un ultra, en fait, le truc, c'est que t'as des hauts et t'as des bas. Donc, en fait, t'as des passages, c'est étonnant. C'est que t'as vraiment l'impression que tu te dis, putain, mais c'est facile. Sauf qu'il y a des moments où ton corps, il est fatigué et il te dit, non, arrête-toi, t'as pas envie de courir.
Ouais.
Et en fait, dans ces moments-là, faut vraiment avoir une résilience pour se dire, non, j'ai pas le choix, faut que j'avance. Et le problème, c'est que dans une journée, des moments un petit peu avec des bas, il y en aura. Enfin, forcément. Donc, tous les jours, il y aura des moments un peu durs. Et en plus, je pense qu'il y aura en plus des jours où vraiment je serai fatigué dans ces moments-là.
Ah
peut-être qu'il sera des heures qui seront difficiles.
Les conditions météo peuvent ajouter de la contrainte. C'est-à-dire que si tu te tapes une cagnard de 30 degrés ou
c'est
de la pluie, ça rajoute de la fatigue à la fatigue.
C'est vrai.
Parce qu'à Grenoble, dans une semaine, il peut neiger encore, non?
Ouais, non, ça. Et puis on va pas trop en altitude, donc normalement à ce niveau-là, on a pas trop de soucis. Mais effectivement, sous la pluie, c'est pas très agréable. Mais j'ai quand même une chance, c'est que je vais être accompagné par pas mal d'athlètes.
Oui, alors ça, on va parler. Ouais. Et des grands noms d'ailleurs de la course à pied, pas mal d'amis d'RMC Running, on va en parler évidemment. Mais l'aspect logistique, c'est aussi le dénivelé, c'est une des données à prendre en compte pour ce défi. Comment t'as tracé tes routes, tes itinéraires? Est-ce que t'as tenu compte du dénivelé en essayant, entre guillemets, de privilégier le moins de dénivelé possible pour pas trop charger musculairement?
Ouais, moi je suis passé par Strava, qui est d'ailleurs un partenaire sur l'événement aussi.
Okay.
Pour tracer forcément, pour garder en fait ce qui était le mieux en termes de justement pour à la fois pour courir, à la fois peu dénivelé, à la fois tu pouvais privilégier route, chemin.
Ouais.
Donc j'ai essayé en fait de faire le tracé le plus simple possible.
Ouais.
Pour pas mal de villes, le problème c'est que d'une ville à une autre, par exemple Rouen-Paris, admet juste, c'est difficile de tracer un parcours qui fait 120 km.
Eh oui.
Tu te retrouves vite à faire 150, 160, donc des fois tu es obligé de couper un peu, de passer par des chemins qui sont peut-être moins sympas.
Évite le périph', il y a des bouchons sur le périph' par exemple.
Ouais, l'avantage en courant c'est que les bouchons,
c'est limité à 30, tu vas plus vite que les voitures.
Non, mais c'est sûr que c'est une des données à prendre en compte. Et tu privilégies la surface, le terrain, ou justement le manque de dénivelé dans ces cas-là? Comment tu tranches?
Non, le manque de dénivelé.
Le chemin, ça te pose pas de problème?
Moi, le chemin, pas du tout. J'adore ça, au contraire.
Okay.
Moi, sur les berges, j'aime bien courir sur les chemins avec des petits cailloux. Non, justement, ça apporte un petit côté un peu ludique. Alors que le dénivelé, le truc, c'est que moi, dans mon défi, déjà, je veux uniquement courir.
Ouais.
Donc, si je me retrouve à avoir... Je me suis obligé de courir 100% du... tous les kilomètres que j'enregistre seront des kilomètres en courant. Donc je me suis dit, si tu te retrouves à avoir des cols à 30%, non. Tu peux pas vraiment courir, aucun sinon intérêt. Tu perds trop d'énergie.
Ouais.
Et le truc, c'est que moi, c'est quand même un objectif plus de distance que de dénivelé.
Ouais.
Donc dans l'idée, j'ai essayé de limiter le dénivelé. Mais après, j'ai envie justement de passer un peu dans des chemins qui sont sympas, un peu dans des forêts. C'est un peu aussi ça, parcourir la France.
Ouais.
C'est de kiffer un peu l'endroit. Donc l'idée, c'est pas juste de passer sur des routes au milieu des villes.
Tu sais ce qui me ferait peur, moi, à ta place, c'est tout ce qui est croiser un chien errant ou ce genre de choses.
Ah,
ça t'y penses ou
pas ? Moi, j'adore les animaux.
Oui, d'accord.
Je suis à ce niveau-là, je suis un peu naïf. Moi, je pourrais aller caresser un buffle, quoi. J'exagère, mais enfin, les vaches, même les taureaux, ça me fait pas peur.
Ah, c'est pas une question de les aimer ou pas. C'est que tu sais, un chien un peu en liberté ou avec son maître et qui te voit et qui déboule comme ça. Enfin,
moi, je suis content.
Tu vas forcément vivre des anecdotes.
Ah, il veut jouer.
Moi, je me dis, il veut jouer. Je me dis pas, il veut m'attaquer. En plus, je me suis déjà fait mordre par un chien.
Ah, d'accord.
Justement parce qu'ils ont mais non moi j'aime trop les animaux et j'ai pas cette peur des animaux quoi. Même les serpents ça me fait pas plus peur que ça donc
allons-y sur les guests qui vont t'accompagner. J'ai vu de grands noms de la course à pied, alors, vu Mathieu Blanchard.
Tout n'est pas juste sur le au début c'était les gens un peu avec à qui on a proposé, on a demandé.
Confirme-moi des noms alors.
Je te dis un petit peu.
Vas-y,
si tu veux, normalement déjà il y a Hugo Clément qui sera là. Claude Dartois probablement aussi. Nico Navarro et Florian.
Ouais. Bah oui, vous faire 200 bornes avec toi, ce sera bien.
Ah oui.
Ouais. Après, <C'est ça. rire> j'espère. Après, il y a pas mal de personnes aussi, d'athlètes un peu chez Oka. Finalement, les trailers, malheureusement, ils vont pas trop pouvoir venir parce qu'il y en a pas mal entre ça tombe un peu pendant la Maxi Race, la Hard Rock, c'est vraiment pas la bonne période.
Ok.
Ils seront pas trop là. Mais normalement, je commence à Grenoble avec Dorian Coninx quand même aussi.
Ah oui, triathlète.
C'est cool, qui est vraiment une référence.
Qui était au Jeu de Paris, qui a été champion du monde de triathlon.
Ouais. Et c'est vraiment sympa qu'il vienne aussi parce qu'il a une course juste avant, assez loin le week-end d'avant.
Ouais.
Après, peut-être. Justement Félix s'il est là, Yann Schreub,
Félix Bourg,
Hugoé peut-être à Toulouse aussi, d'ailleurs il faut que je lui envoie un message là. il y a pas mal
région parisienne,
comment,
quelques athlètes en région parisienne,
il y a pas mal. Du coup il y a
Moustapha Salmi, ouais,
normalement à Rouen. Forcément après il y a Dodo, il y a Dorian
Louvet bien sûr, notre ami,
qui va peut-être venir aussi pour la dernière étape.
Ah excellent,
ça serait vraiment incroyable.
Ok.
Mais il y a vraiment du monde. Après je veux pas trop non plus en dire parce qu'ils verront pendant.
C'est quoi l'idée ? C'est de courir un maximum accompagné ou tu vas faire de longues périodes seul aussi ?
Moi, j'espère être accompagné au maximum, mais du coup, dans l'équipe, le truc, c'est que dans l'équipe, on sera 5 en tout, mais tout le monde aura quand même beaucoup de boulot. Moi, je vais courir certes 10 heures, mais ils vont peut-être bosser 10 heures par jour.
Ouais, bien sûr. Il y a toujours quelqu'un qui te suit à vélo, quoi qu'il arrive ?
Non.
T'as un vélo avec toi ou pas ?
Non, parce qu'il y a trop de choses à faire pour que j'ai tout le temps quelqu'un avec moi.
Okay.
Mais l'idée, c'est que, je pense que l'idée, c'est que quand ça devient un peu dur pour moi, c'est là que j'ai un peu de soutien.
Ouais, okay.
C'est dans ces moments-là un peu que tu as besoin un peu d'être accompagné, quelqu'un qui court à côté de toi, tu vois, de ton allure. Qui vont m'accompagner le long du trajet. Il y a mes sœurs, tu vois, à Marseille, à Nantes, mon cousin aussi à Paris, mes parents qui vont peut-être un peu venir aussi au début. Enfin, il y a un peu des gens aussi qui sont pas forcément des athlètes professionnels, des influenceurs, des gens qui comptent pour moi et qui seront là aussi le long du parcours. On va essayer de faire avec Strava un run club.
C'est ce que j'allais te dire.
Ouais,
est-ce que une personne qui vit à Montélimar ou qui vit à Grenoble, à Brest ou à Rouen, si elle sait que tu vas passer tel jour et qu'elle veut t'accompagner, est-ce qu'elle peut t'accompagner sur quelques kilomètres ?
Ouais, ça on va communiquer dessus et moi je vais avoir un tracker. Donc les gens pourront savoir exactement où je suis. Donc ils peuvent se dire il est là, à cet endroit-là. Vas-y, je suis à 2 kilomètres, je l'accompagne quoi.
Okay.
C'est sûr que c'est pas une course privée quoi.
Non, c'est ça. Donc, il y a ce côté participatif jusqu'au bout.
C'est sûr que moi plus il y a de gens qui viennent m'accompagner.
Ouais.
En fait, ce qui était bien, c'est qu'il y ait des athlètes vraiment un peu professionnels qui ont marqué leur sport, qui puissent en fait venir un peu dans leur ville, parler un peu de leur ville.
Bien sûr.
Je trouvais que c'était sympa et que c'était important. Mais avoir des gens aussi qui kiffent la course à pied et qui soutiennent le projet et qui ont envie un peu de m'aider un petit peu à aller plus loin dans ce défi, c'est génial s'ils peuvent venir, tu vois.
30 étapes, 30 jours, est-ce qu'il y a une étape qui te fait plus peur que les autres ?
Je crois que l'avant-dernière étape, il y a un peu plus de dénivelé.
D'accord.
Et après, ce qui me fait peur, c'est surtout de me dire... je sais que les moments un peu difficiles, c'est quand t'as pas encore fait la moitié. et que t'es déjà bien fatigué.
Quand t'es à 40%, 45%
c'est ça,
défi,
un peu
quoi.
Comme sur la plupart des courses.
Ouais, c'est
comme,
ça. 13 dis, ou 14
mais
jours.
Mais c'est pas possible, là, ça fait 10 jours, ou même les premiers jours. Je me dis, mais attends, là c'était, j'ai fait 115 bornes aujourd'hui, j'étais dans le dur, je dois faire ça encore 29 jours. Le début, en fait. Après, j'imagine qu'à la fin, ce sera plus facile. Donc au final, c'est pour ça qu'aussi, le fait qu'il y ait un peu plus de dénivelé à la fin, c'est pas très grave. Parce que je me dis, de toute façon, si je suis arrivé au 29e jour, c'est que j'irai au bout.
Oui, c'est ça.
Et après, ce qui m'inquiète un peu aussi, c'est potentiellement la blessure. Parce que quand tu...
La
chaleur. Ouais.
Tendinite, ouais. Est-ce que tu as eu des blessures par le passé, des blessures qui t'ont contrarié?
Ouais, j'ai eu. Bah, c'est pour ça que j'ai eu aussi une période un peu difficile. C'est parce que j'ai eu une fracture de fatigue au sacrum.
Ouais.
J'ai l'impression d'avoir des fois, de temps en temps, toujours un peu une fragilité à cet endroit-là. Ouais. On me dit que normalement, l'os est censé se consolider, mais des fois, j'ai l'impression que quand j'en fais un peu trop, ou quand je sais pas, je vais jouer au badminton à côté, faire des trucs comme ça, et que je suis fatigué le soir, et je sens que j'ai une petite douleur qui revient. C'est une douleur fantôme, mais bon, j'en sais
pas. Ouais, non, mais il y a que toi qui peux savoir, de toute façon. Si tu la sens, c'est que c'est forcément particulier. Ouais,
ouais, mais voilà, donc faudra que je fasse attention à bien m'hydrater, à me mouiller quand il fait chaud. Mmh. C'est pour ça aussi que c'est important que j'ai des gens aussi qui soient avec moi, indépendamment de l'aide psychologique, c'est que il faut que je récupère au maximum. Je suis accompagné aussi par Compex un peu sur le projet pour ça.
Matériel de qualité. Hein.
Ouais. Ouais. Mmh.
Les donc, séances le soir de récupération, tout ça, ouais, ça va te servir. C'est
ouais,
sûr.
voilà. Je vais pareil qu'au Rose pour voir un peu comment j'ai récupéré. Tu vois, je regarde un peu. C'est un truc qui est nouveau que je faisais pas trop avant, mais c'est vrai que je regarde un peu ma VFC.
Ouais.
Pour voir, forcément.
C'est la variabilité
cardiaque.
Voilà.
Ouais,
ça donne une info sur le degré de fatigue, en gros.
Dans l'idée, exactement.
Ouais. Ouais. Et puis faire attention au virus. Enfin, Johan, qu'est-ce qui te ferait le plus peur au-delà donc, du défi? C'est quoi? C'est le fait de tomber malade? C'est la blessure musculaire? Est-ce que d'un camp doit être attentif au moindre signe envoyé par son corps?
Bah, c'est comme un coureur du Tour de France, hein, grosso modo. C'est-à-dire que t'es indépendant de la météo. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un jour où tu peux te tremper pendant 10 heures et être mouillé. Et le lendemain, prendre 30 degrés. Donc, le risque de tomber malade d'infection est grand. La récup, ça va être vraiment primordial de faire attention à ce qu'il va manger, aux heures de sommeil, de récupérer, de se faire masser. Enfin, musculairement, c'est quand même traumatisant de courir sans borne. Et après, c'est l'aspect mental, moi, qui m'impressionne. Parce que tu vois, par exemple, je sais qu'il fait une étape Mont-de-Marsan Bordeaux. Ouais. Je peux dire que les Landes, là, c'est... Alors, ça ultra plat pour le coup, mais c'est des lignes droites interminables au milieu des pins.
Ne lui dis pas.
Et là, s'il fait chaud, mon pauvre ami, c'est les Landes, c'est des lignes droites. Et c'est compliqué. Donc effectivement, tu as toutes ces données qui vont être magnifiques à prendre en compte. Et enfin, c'est un défi de fou, mais voilà, c'est le mot défi. Et derrière défi, forcément que c'est pas facile. Ouais.
Mais quand tu m'en as parlé d'un camp, moi, ma seule crainte, c'était de me dire, il va courir ça trop vite. Tu vois, parce que je me suis dit...
Il va se réguler au fil du temps.
Naturellement, t'es un coureur très rapide et tout. Mais là, j'ai l'impression que t'as la bonne optique, la bonne idée au départ, c'est de te dire, la clé sera la préservation musculaire, mentale, etc. Donc, tu t'as acté toi-même que t'allais partir dans une zone de confort extrême. Quoi. Tu vas partir vraiment tranquille.
Ouais, j'ai conscience. Pour le coup, j'appréhende un peu. Je me dis vraiment, je me dis que c'est pas gagné. Mm. Surtout qu'en fait, j'ai un peu, par rapport au nombre de kilomètres que je veux faire, j'ai une fourchette basse et une fourchette haute en fait. Moi, dans l'idée, la fourchette basse, c'est effectivement 3000 km, mais l'objectif, c'est plus aller vers les 3400. Le parcours que je me suis tracé, c'est 3400.
Il y a peu de gens déjà qui courent 3400 à l'année. Donc, toi, tu vas le courir en 30 jours.
Peu de gens qui font un marathon. Moi, j'en fais dans la journée, ça fait presque 3 marathons chaque jour pendant 30 jours.
Voilà.
Donc, j'ai conscience. J'ai fait un peu d'ultra, justement, endurance, un ultra trail. Donc je sais un peu ce que c'est aussi que de dépenser trop d'énergie à un moment donné et de le payer plus tard. Donc, c'est sûr que je vais être beaucoup plus dans la gestion. Et puis, un truc, c'est aussi en juin, juillet, il va quand même faire chaud à certains moments.
Ouais.
Et ça fait de la fatigue supplémentaire.
Ça, c'est sûr.
Quand tu cours à 14 heures, en vrai, tu cours à 12 km heure. Des fois, c'est pareil que de courir quand il fait bien frais le soir.
Oui, oui. Parce que c'est vrai, là, tu nous parles des marchés, le lien que tu veux avoir, ce côté populaire du projet, etc. Mais le marché, ça ouvre le matin et puis ça ferme en début d'après-midi. Donc, comment tu vas organiser tes journées?
C'est ça, je suis obligé d'avoir un rythme. Je peux pas me dire, aujourd'hui il fait trop chaud, tant pis je cours le soir, je cours un peu de nuit. Non, ouais. J'ai une équipe qui est avec moi, qui va dormir la nuit et être là le jour. Ouais. On a entre guillemets un programme à suivre, tu vois. Malheureusement, j'ai pas énormément de flexibilité. Finalement, les journées sont un peu prévues. Les marchés, ça va dépendre. Certains marchés dans les grandes villes, j'en sais rien. Par exemple, dans les grands marchés comme à Lille, Carcassonne, on ira peut-être au marché justement quand il ouvre le matin à 7h et faire le marché pendant une demi-heure.
T'es obligé, bien sûr.
Et partir après. Bien sûr. Et après, il y a certains endroits aussi, par contre, on se donne la flexibilité de on va aller à tel endroit. Alors, justement, dans la logistique, ce sera mon pote Pierre-Yves qui va un peu gérer ça.
Ok.
Qui va dire, ok, bon, bah là, il y a tel marché, ok, on peut éventuellement s'arrêter dans celui-là, et on passe 20 minutes dans ce marché-là. Et parce que, au final, les marchés vont aussi servir pour faire les courses. C'est l'idée, c'est qu'en l'idée, il y avait une idée qui était un peu sympa, c'était moi je cours 100 km tous les jours et là je vais manger que des produits qui viennent de moins de 100
km. Tu veux te ravitailler avec des produits du marché,
on va s'alimenter avec les produits du marché, ouais. Okay. Alors pas que il y aura du sucre,
du gel d'effort, ce genre de choses.
Après, il y aura un petit peu, mais je vais quand même limiter un peu les gels. Mais c'est ça aussi la différence avec un ultra trail, c'est que sur une course, tu dis bon allez, je prends que des gels, c'est pas un souci. Le problème c'est que là tu fais ça pendant un mois, tu es complètement carencé, tu vas te baisser avant la fin.
Donc là, parfois tu vas courir le ventre plein parfois.
Oui, c'est pour ça que je disais que
Castelnaudary, le cassoulet.
Ouais, je pense qu'il y a pas mal, il y a des moments où je ferai un petit peu des pauses histoire de digérer, mais ce sera pas des pauses très longues. Donc oui, je vais courir. En fait, vu que moi, je vais forcément courir du matin au soir et que même en courant à 12 km/h par jour, finalement, ça fait presque 10 heures de course à pied dans la journée. Ouais. Et t'es obligé, tu peux pas prendre des pauses qui soient très longues en fait.
On dit 100 km par jour, c'est 100 bornes systématiquement d'une traite ou tu peux te faire une pause au bout de 50, tu te ravitailles, tu prends un repas et tu repars.
Je ferai pas mal de pauses. De toute façon, même pendant un ultra trail, les gens font des pauses.
Bien sûr.
Mais je ferai des pauses qui sont plus longues. Et puis oui, moi j'arrêterai. Quand je dis l'allure moyenne, je compte pas les pauses. Forcément,
bien sûr.
Parce que moi je mettrai justement reprendre plus tard je relancerai l'activité. D'ailleurs, je pouvais courir avec deux montres. Une où je vais avoir le tracé de la journée et une deuxième où je vais essayer d'enregistrer. Chaque jour, je vais mettre reprendre plus tard et je reprends le lendemain. Donc j'aurai la distance totale entière
excellent.
En même temps.
Okay.
Ouais, je trouvais ça cool de faire ça, c'est ce que Coros un peu m'a conseillé aussi, je me suis dit c'est une bonne idée.
Et très bonne idée. Ouais. Parlons de matos, carbone ou pas carbone?
Ouais, carbone.
Carbone, même sur des allures douces comme ça.
Moi je trouve que en fait le truc c'est qu'aussi déjà moi je suis habitué à courir avec ces chaussures là donc et je trouve que tu gagnes un petit peu en économie, en fatigue, tu peux courir un petit peu plus vite.
Bien sûr.
En te dépensant un petit peu moins d'énergie, donc c'est toujours ça de gagner. Et puis en plus, l'avantage des carbones, c'est quand même elles ont un bon amorti, quoi. Donc dans tous les cas,
clairement,
tu économises.
À partir du moment où t'as les deux bons pieds, ça ira.
Référence au record du monde RMC. Ouais. Évidemment.
Ça,
tu nous avais régalé, évidemment, dingue. Tu penses user combien de paires de chaussures sur 3000 bornes?
Je me suis dit, moi, je pars avec, dans l'idée, 4 paires différentes. En fait, je pars avec une paire un peu de chaussures avec vraiment un gros amorti.
Ouais.
Au cas où je suis vraiment un peu flingué musculairement. Mmh. Ouais. Ouais. Après, je prends du coup les chaussures avec lesquelles, par exemple, j'ai couru à Séville, les Rocket X2. Et là, il y a le nouveau pour les Rocket X3 qui vont sortir dans quelques temps et qui ont une hyper bonne accroche. Et en plus, j'avoue que j'aime bien.
Ok.
Parce que c'était
la carence des Rocket X2, le manque d'adhérence des carreaux, t'étais un peu mouillé.
On va dire qu'il y avait un défaut, c'était ça, c'était quand il pleuvait, ça pouvait glisser. Ouais. Alors que les Rocket X3, elles ont vraiment une bonne accroche. Donc quand il pleuvra, c'est sûr que je cours avec celle-là.
Ok.
Et même quand il pleuvra pas, je pense que je courrai un peu avec celle-là. En fait, elles sont peut-être un petit peu plus performantes, mais tout petit peu plus traumatisante, on va dire. Peut-être un tout petit peu moins d'amorti que les Rocket X2, et un petit peu plus légère. Donc voilà.
Là, on parle d'un défi énorme. Comment tu as géré ton entraînement jusque-là et qu'est-ce que tu vas faire? Il reste une semaine, tu pars dans une semaine. Là, c'est repos total pour laisser ton corps tranquille et l'aider à aller affronter le grand défi qui l'attend, ou comment tu gères ça?
Repos total, non, parce que moi, je me connais quand même. Je sais que c'est vrai que les gens disent souvent que j'en fais trop avant une course, parce que moi, je peux arriver sur un marathon en ayant fait 250 km la semaine du marathon. Donc, c'est vrai que je suis un peu à l'encontre des fois de cette théorie de l'affûtage, comme on dit, où il faut faire moins de kilomètres. et ouais, pour arriver complètement frais. C'est vrai que moi j'ai quand même tendance à en faire pas mal. Là le truc c'est qu'il y a aussi un autre facteur, c'est psychologique. Ouais. J'ai pas envie d'être dégoûté de la course à pied.
Voilà, c'est ça. Donc faut avoir envie de courir.
Ouais. Donc au final, des fois il y a des jours là, au final, si on regarde mes semaines, je cours pas tant que ça parce que je fais pas mal de vélo. Je fais d'autres sports. Qui vont me servir, tu vois, au niveau cardiaque et aussi en soi plutôt axé quand même jambes. Mais du coup, je limite la course à pied, tu vois. Je ne me fais pas des semaines à 200 parce que je me dis, je vais me faire des semaines à 800. Donc, je n'ai pas envie de partir le premier jour et de me dire, j'ai pas envie de courir. J'ai envie le premier jour d'arriver et d'avoir hyper envie de courir, justement.
Ouais. C'est quoi
tu ne vas pas jouer au badminton pendant un mois, Dunk?
Non, pendant un mois, je ne vais pas pouvoir jouer au badminton.
Oh, la frustration. Bon. Attention, c'est un grand joueur de bad, il paraît. Hein.
Ah ouais, grand joueur de bad.
Ah ouais.
Ouais, il paraît qu'à Font-Romeu, il joue dans la chambre hypoxique, d'ailleurs, au badminton. non, mais t'es dans quel état d'esprit, là, à 7 jours du truc? T'as peur? T'as hâte? T'es craintif? Comment t'es?
Je suis assez... J'appréhende un peu.
C'est de la positivité ou de la négativité, quoi? Tu vois, c'est...
Ni l'un ni l'autre, en fait. En fait, je suis assez... Pour le coup, j'arrive de façon un peu assez sérieuse sur ce projet. L'envie de bien faire. Mais je peux pas dire que... Vu que j'appréhende un peu, j'ai du mal à avoir vraiment hâte. Mais si, maintenant, il faut que ça commence. Ce que je dis, en fait, c'est un projet global. Il y a tout le travail qui a été effectué en amont pour rendre ce projet possible. Effectivement, on va faire un film documentaire.
Ouais, bien sûr.
Donc, c'est quand même un gros truc de pouvoir faire un film documentaire en étant suivi pendant 30 jours. Ouais, c'est une gestion globale qui était... Ça va être un gros truc. On va avoir un camping-car de 7 mètres de long, 3 mètres 50 de haut.
On a eu la chance de voir les photos en exclusivité, comment ça sera stické et tout. C'est magnifique. Hein. Enfin, vous avez fait les choses vraiment... La logistique est parfaite pour l'instant.
Ouais. Alors que on a commencé quand même un peu tard. Et puis c'est pareil, tu vois, toutes les discussions avec le World Guinness. Au final, il y a un budget.
Ah bah ça, on sait ce que c'est, oui.
Ouais,
ça, c'est...
Puis même, les personnes qui vont me suivre, qui vont bosser 10 heures par jour pendant 30 jours, va falloir que je les paye.
Ouais, bien sûr.
Donc, le coût total du projet, il est assez important. L'idée, c'était que moi, ça ne me coûte pas trop cher en plus.
Bien sûr.
Donc, il fallait que je trouve suffisamment de partenaires pour rendre même un documentaire, faire un docu. On va faire un vlog sur YouTube. On va faire une vidéo un peu récapitulative, un peu des journées tous les jours. L'idée, c'était de faire le truc le mieux possible. Donc, pour moi, le projet, il a déjà commencé, en fait. Là, il a commencé un peu dans la tête et un peu plus sur un côté un peu marketing. Et vraiment, physiquement, pour moi, ça va être plus que ça dans une semaine.
Parce que les préparateurs mentaux disent toujours, sur n'importe quel défi, il faut un plan A, un plan B, un plan C. Est-ce que tu as réfléchi à tout ça? Est-ce que tu as cette capacité d'adaptation ou est-ce que le plan est fixé et quoi qu'il arrive, tu penses que vous allez le suivre autant que possible?
Ouais, non, j'ai pas de plan C, ça c'est sûr.
Ouais.
Un plan A, un plan B, on va dire un petit peu, parce que dans tous les cas, je pourrais quand même être un peu flexible, en tout cas au niveau des allures.
Ouais.
Je peux me dire, ok, là, je vais au début, je serai frais, je vais courir à telle allure. Ben non, des fois, ça va dépendre. Mais dans l'idée, quand même. Et puis, c'est pareil, effectivement, les jours où j'ai calé, par exemple, 115 km, moi, l'objectif, c'est de faire 100. Si vraiment, c'est un jour très compliqué, limite, je sens que je suis à deux doigts de me blesser,
ou que je suis complètement cuit,
ou j'ai une journée très compliquée, il a fait hyper chaud, 100, je m'arrête à 100.
Bien
donc
sûr.
C'est un peu ça le côté, justement on est en camping-car, donc les 15 km qui suivent, on les fera en camping-car.
Ouais.
On va dire que c'est peu de flexibilité.
3000 ? C'est vraiment 3000 le record du monde ?
En fait, le record du monde, c'est beaucoup moins que ça au niveau du Guinness. Mais le problème, c'est que j'ai regardé pas mal d'articles. C'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas officialisé un record. Et il y en a qui ont fait, sur 20 jours, j'ai vu à peu près 2000 km. Donc, c'est 100 km par jour. Il y a des trucs un peu comme ça. Après, dans certains défis, il y en a qui ont compté la partie où ils marchaient aussi. Oui. Donc, après, on ne peut pas 100% comparer.
Mais après, c'est tout l'intérêt. Et on le redit à tous ceux qui nous écoutent. Parce que nous, on a été dedans pendant un an. Et d'ailleurs, ça va quasiment faire un an qu'on a réalisé ce beau week-end. Et grâce à toi aussi, parce que tu en as fait partie et t'as joué le jeu à fond, on te remercie encore d'un camp d'ailleurs, c'est que l'intérêt du Guinness, c'est cette certification. Tout le monde peut se lancer un défi, établir un record, mais pour qu'il ait une valeur, il faut qu'il y ait des critères. Et, et cette certification, pourquoi on contacte le Guinness? C'est pas juste pour se faire plaisir et être dans le Guinness Book des records, non. C'est pour qu'il y ait un cadre posé et qu'on sache exactement ce qu'on doit faire. Sinon, t'ajoutes, comme tu dis, t'ajoutes des tirés à chaque fois, et puis tu dis, bah non, mais puis j'ai fait ça, et puis j'ai fait ci, et puis j'ai fait ça. Non, non, faut que ce soit un cadre clair, comme ça, tout le monde sait ce que t'as fait et sur quoi tu pars, quoi.
Ouais, c'est sûr. Après, il y a un côté un peu dommage aussi, c'est que bah, forcément, ils ont pas mal de crédibilité, et eux, bah, ils essayent des fois de tirer un peu profit aussi du truc.
Ça, c'est sûr.
Donc, ils ont compris que j'avais un budget sur
et une forte
projet.
Communauté, bien sûr.
Ouais, et du coup, ils ont essayé de me dire, ah ben nous, il faut que tu nous donnes temps.
Ouais, ça
m'étonne. Non, je suis désolé, les gars, moi, je peux pas vous donner temps parce que moi, ça risque de trop me coûter de ma poche.
Non, mais c'est sûr, bien sûr. L'intérêt, c'est pas que tu perdes de l'argent avec un tel défi. Donc,
moi, vraiment, je me suis dit qu'en fait, si vraiment ils me demandaient trop, je préfère que limite mon ce soit pas homologué comme un record du monde et que ce soit finalement un record perso. Et de toute façon, si c'est un truc, si j'ai vraiment fait par exemple 3400 km en un mois, dans tous les cas, les gens se rendront compte de ce que c'est, et moi-même je serai satisfait de ma performance. Donc tant pis pour le World Guinness, et tant pis pour nous, tant pis pour eux, quoi.
Et il faut que tu te prépares aussi à affronter un lot immense d'émotions. Parce que comme tu dis, tu vas traverser toutes les émotions. Parfois, quand on fait un ultra, c'est sur une seule et même journée. Toi, ça va être sur 30 jours. Des hauts, des bas, de l'euphorie, de la tristesse, des inquiétudes, etc.
Ouais.
Ça, je pense qu'émotionnellement, il faut être préparé à ça aussi, quoi. C'est ça qui est...
Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bah, en fait, moi, vraiment, entre guillemets, la plus grosse crainte, c'est de me dire, t'imagines, au bout de 3-4 jours, tu te dis, bah, en fait, non, c'est trop dur, là, je peux plus. Et de tout ce qui a été fait, tous ces gens qui sont là pour moi et qui se retrouvent à devoir arrêter au milieu de rien, que ce soit les partenaires, que ce soit les amis, que ce soit justement mon équipe, moi je veux être capable d'aller au bout, quoi. Et sauf que je sais pour le coup que ça va être difficile, mais c'est aussi pour ça que je voulais plus essayer de me rapprocher aussi des 115 km par jour, parce que je me dis, bah ouais, 115 km c'est vraiment, tu vois, c'est pas me dire, bon bah, tu vois, moi je suis capable de faire 2h09 sur marathon, tu vois, si je fais un marathon en 2h40, et ben ce sera quand même sympa, sauf que je sais que pour moi c'est entre guillemets facile,
bien
donc
sûr,
ce
bien
sera
sûr.
Pas une vraie
non, mais évidemment.
Moi il y a le côté là, c'est pas un truc juste ouais vas-y, c'est marketing,
non,
c'est me dire,
c'est un défi personnel que tu te lances,
un vrai défi où je vais au bout de moi-même,
bien
et
sûr.
Je repousse un peu justement mes limites, quoi.
Mais si tu vas au bout, mentalement tu vas te prouver énormément de choses, ça c'est sûr.
En tout cas, c'est sûr que ça.
Et pour te. Enfin, t'as pas besoin de nous d'ailleurs, mais pour aller dans ton sens, te soutenir et te réconforter. Enfin, Johan, je pense que tu iras dans le même sens que moi, mais s'il y a un gars qui peut réaliser ça en France qu'on connaît, bah, nous on aurait pensé à toi direct. Johan, franchement, si.
On aurait cité ton nom.
Non, mais c'est sûr, s'il y a quelqu'un qui va se lancer là-dedans, c'est d'un camp, quoi, non?
Bah, ça fait plaisir, du coup, c'est.
Non, mais c'est sûr,
je suis au bon endroit, je suis au bon défi, alors.
Vraiment.
Non, mais c'est sûr.
Dis-lui qu'il va y arriver, Yodu, nous, on a aucun doute.
Non, mais j'ai pas de doute.
Il y a pas mal de gens qui m'ont dit que j'ai. En fait, il y a un peu de tout. Chez les athlètes, il y a des personnes qui m'ont dit, mais tu te rends pas compte, c'est impossible de faire ça en courant. Enfin, c'est vrai que c'est pas comme le vélo qui est un sport reporté.
Porté, ouais.
Indépendamment effectivement de la fatigue un peu qui mentale et physique, il y a justement il y a le côté vraiment musculaire traumatique.
T'as pas un kiné qui va t'accompagner?
De base, on devait avoir une, il y avait une kiné qui était censée venir, l'ami justement de celui qui va gérer toute la partie logistique.
Okay.
Finalement, il y a deux trucs, c'est que au niveau du camping-car, c'est un peu compliqué niveau place.
Ouais, bien sûr.
Ouais, au final, on a pris la décision, on s'est dit, ils m'ont dit, bon bah, ok, c'est bon, s'il faut te masser, on te massera nous, on se relayera.
Okay.
Et donc, ils auront un peu plusieurs casquettes.
Tu sais ce qu'on va faire d'un camp?
Ouais.
On lance un appel dans RMC Running. Vous regardez le tracé qui est prévu par d'un camp Périlla. Si vous êtes dans une ville concernée, vous êtes kiné, vous êtes en école de kiné, vous êtes étudiant kiné.
Vous êtes obligé de venir le masser.
Contactez-nous, on vous mettra en contact avec Duncan comme ça
podologue
pour lui faciliter
aussi,
le
si
podologue,
il faut
tout ce qu'il faut.
Pieds.
Exactement, exactement. C'est ce qu'on avait fait pour le record.
Que je m'arrête en route et qu'ils viennent avec leur table et qu'ils viennent.
Non, c'est sur ta ville arrivée. Ta ville arrivée, hop, le camping-car s'arrête.
Ouais.
Un kiné vient te rejoindre, un étudiant kiné, sinon, hop, et puis voilà, il peut t'assurer des soins. C'est un projet collectif participatif, on vous l'a dit donc avec Duncan. Si vous voulez courir un peu avec lui, contactez-le ou contactez-nous. D'ailleurs, on transmettra le relais, mais. Pareil, si vous voulez l'aider dans ce sens-là, enfin, j'imagine que tu es ouvert à toute aide extérieure.
Complètement. Normalement, il y a l'équipe qui sera sur les réseaux sociaux. Si vous envoyez des messages, on regardera dans les messages, même des gens que je connais pas, pour répondre au maximum. Ouais, ce sera pas moi qui répondrai, mais
pour apporter une solution de manière concrète, vous nous contactez sur Instagram, vous nous faites un message privé et nous on le relaiera à l'équipe de Dunkan. Comme ça, on sait jamais si. De toute façon, ton itinéraire, tu le publies des jours en amont. On sait exactement où tu seras quelques jours avant.
Ouais.
Bon bah excellent, voilà, donc n'hésitez pas.
Et comme je disais, normalement il y a une appli, on pourra pour télécharger justement pour voir exactement là où j'en suis.
Bon, magnifique. Ouais. Dunkan, tu nous régales, comme d'habitude, on a hâte d'assister à ce beau défi, tu nous donneras tes nouvelles, puis tu viendras le débriefer et nous raconter comment tu as réussi à relever tout ce défi.
C'est sûr, ouais.
Magnifique. Juste ton passage à Paris, t'as la date exacte, tu sais à peu près
à Paris j'arrive le 19 juin.
Le 19
soir,
juin,
et je repars le 20, je crois que c'est en direction de Beauvais.
Ok. Magnifique. Ouais. Eh ben écoute, si on est dans le coin, on viendra avec plaisir.
J'espère. Ouais. Le 20 au matin, ce sera probablement vers 7h. Globalement, le matin, je partirai souvent vers 7h du mat. Et le soir, j'espère arriver vers avant la tombée de la nuit, on va dire.
Tu courras jamais de nuit ? Non, c'est pas prévu.
Non, l'idée, c'est que je cours de jour. Ouais.
Ok, ça marche. Dunkan, merci beaucoup. Reste avec nous. On passe tout de suite au bon plan matos.
RMC.
Le bon plan matos.
Alors, ce n'est pas un de tes partenaires, mais c'est une marque qui t'aurait beaucoup aidé parce qu'on va mettre en avant la marque Gorewear, le spécialiste des vêtements techniques de course à pied et également vélo. On va parler avec Ludovic Tépin qui est responsable de la marque. Bonjour Ludovic.
Ouais, bonjour l'équipe.
Bienvenue, vous étiez déjà venu d'ailleurs dans RMC Running. Gorewear, c'est vraiment une marque de référence, notamment les vestes techniques, c'est ce dont on va parler dans un instant, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les grandes lignes de Gorewear? Voilà, c'est vraiment du vêtement destiné au sport outdoor. On peut pratiquer le sport dans n'importe quelles conditions si on est bien équipé.
Ouais, exactement. La marque appartient donc à la société qui développe le Gore-Tex, donc qui est connue par le grand public et qui est connue aussi par les professionnels des sports outdoor pour la protection contre la pluie, le vent. Et donc Gorewear a été développé par des ingénieurs de chez Gore-Tex qui étaient des pratiquants de running et de vélo et qui se sont dit bon ben voilà, on va développer une marque vraiment orientée sur le running et le vélo. À base des produits que l'on développe déjà pour l'outdoor, l'alpinisme et la montagne en règle générale.
Qu'est-ce qui marche le plus chez vous ? C'est ces fameuses vestes techniques ? C'est ça qui fait la différence ? C'est là-dessus qu'on vient vous solliciter, notamment dans les périodes où il pleut beaucoup ?
Ouais, alors forcément, c'est là où on vient nous chercher en premier, parce que c'est là où on est connu. Mais en fait, aujourd'hui, on commence à aussi se faire connaître de plus en plus, par exemple, dans les shorts.
Ouais.
Dans les shorts et dans les collants de running et dans les pantalons de running, parce qu'en fait, la qualité de Gorewear, c'est aussi de travailler énormément sur les coupes et l'assemblage des matières. Et donc, cette qualité est reconnue maintenant sur l'ensemble des panoplies.
Ce qui est fou, parce que moi j'ai eu la chance d'en tester une veste Concure dont on va parler dans un instant, c'est le mix, le combiné, le combo entre la légèreté de la veste et l'imperméabilité, parce que ça c'est fou quand même de pouvoir courir sous la pluie et de ne pas ressortir trempé. Ça c'est, on l'a dit, c'est la technologie Gore-Tex, mais même le poids de la veste est impressionnant d'ailleurs, hein, Ludovic.
Ouais, là on est sur la Concurve Gore-Tex essayée il y a 2-3 mois maintenant.
Ouais. Ouais, exactement.
Où effectivement, on a d'excellents retours sur cette veste en termes de légèreté et d'imperméabilité. Et là, aujourd'hui, on va parler plutôt de la Concurve Windbreaker, qui est un autre segment en fait, dans nos vestes. Ouais.
L'intérêt, c'est quoi ? C'est un coupe-vent, comme son nom l'indique, de celle-ci ?
Ouais, le problème numéro un de ces vestes ultralight, que quasiment toutes les marques ont dans leur gamme, le problème de ces vestes ultralight, c'est quand on les court en manches courtes, en fait, la veste vient souvent se plaquer, en fait, vient souvent se plaquer sur la peau, et c'est assez désagréable, surtout quand on monte en intensité. Donc l'idée, en fait, de cette veste très légère, ultra compressible, c'est vraiment d'apporter ce confort pendant les trois saisons, qui sont souvent printemps, été, automne. Et en fait, elle a un tissu unique qui est tissé en 3D, qui limite la surface de tissu qui touche à même la peau. Et quand on monte en intensité, comme ça, on a une excellente respirabilité avec une veste qui ne vient pas coller la peau.
Ça, vous l'avez forcément vécu, Dunkan et Johan, dans votre longue carrière de coureur de haut niveau. La veste qui se colle comme ça à la peau, c'est insupportable, cette sensation.
Moi, je ne mets pas de t-shirt manche courte sous une veste. Sous une veste, c'est impossible.
C'est vrai. Quand ça colle aux avant-bras comme ça, Dunkan, toi aussi, tu as dû le vivre. Ce n'est pas une sensation agréable.
Ouais, c'est sûr que ce n'est pas ouf. Ouais.
Ouais, ça, c'est sûr. Parce que ce sont des vestes qui ont un certain coût, Ludovic, mais quelle est la durée de vie d'une veste Gorewear comme ça ?
Ah, de toute façon, tous les produits Gorewear sont faits pour vraiment durer dans le temps. C'est depuis 1985 où la marque existe. Ça a été un des premiers, bien avant que tout le monde en parle, pour la partie protection de l'environnement. Ça a été une des premières qualités qu'ont voulu développer les ingénieurs, la durabilité des produits. De façon à ce qu'on... C'est pour ça que souvent, chez Gorewear, on est sur des coloris assez intemporels,
ouais,
pour que justement, il n'y ait pas de demande de renouvellement permanente, parce qu'on sait que en fait, nos vestes vont durer énormément dans le temps. Donc on est plutôt sur des coloris intemporels, parce qu'il y a la durabilité de la veste. Si elle est bien entretenue, c'est toujours la même histoire. En fait, ça demande un bon entretien. Mais si l'entretien est fait, c'est des vestes qui peuvent durer 4 ans, 5 ans, 6 ans,
ah ouais,
peu importe.
Voilà, donc c'est un investissement raisonnable quand on sait l'utilisation que vous en ferez. Le prix de vente, c'est quoi alors sur cette veste-là ?
Alors sur cette veste-là, on est dans une catégorie, on est peu présent aujourd'hui, donc c'est un prix de vente qui reste un prix pour certains pratiquants qui peut être élevé, mais vu la qualité de la veste, on est à 129€ sur cette veste-là.
Et les coloris ?
Voilà. Ah, les coloris, on est sur des coloris intemporels d'une saison à l'autre. Cette année, là, cette saison, sur ce printemps-été, on a pas mal le Tech Beige qui sort très très bien.
Ouais.
Qui est un beige un peu mat qui sort extrêmement bien. Après, on a des coloris noirs, blancs. Pour ceux qui ont envie de courir avec des vestes sur des blocs couleurs un peu plus classique. Et puis après, sur les saisons à venir, en fait, on va développer des printés sur cette veste-là, parce qu'une des caractéristiques de ce tissu 3D, c'est qu'on peut apporter aussi énormément de printés, de print qui n'empêche pas la respirabilité de la veste.
Et où est-ce qu'on les achète ? Déjà sur le site de Gorewear forcément, mais est-ce que vous êtes distribué chez certains revendeurs ?
Ouais, alors nous, on est énormément présents chez ce qu'on appelle les running spécialistes. C'est tout, ouais. C'est tous les magasins qui sont présents, qui sont spécialisés running dans toutes les villes de France. Donc ça, c'est notre premier réseau de distribution. Notre autre réseau de distribution, c'est les sites internet aussi spécialisés dans le running.
Eh ben merci beaucoup Ludovic, hein, vous êtes comme chez vous, hein, RMC Running, vous revenez quand vous voulez, surtout que vous mettez une veste en jeu dans RMC Running, donc cette veste coupe-vent Windbreaker, n'hésitez pas, allez vous renseigner sur internet, et si vous voulez participer au tirage au sort, vous nous contactez sur Instagram, et vous pourrez comme ça, pourquoi pas, tenter votre chance, magnifique cadeau, une veste qui se porte tout au long de l'année, donc n'hésitez pas. Merci Ludovic, à bientôt dans RMC Running.
Merci à toute l'équipe de m'avoir accueilli. Bonne continuation.
Avec plaisir.
Merci.
À bientôt.
Merci.
À bientôt. Et un grand merci à Duncan Perilla qui était là cette semaine.
Bah, merci l'équipe. Hein.
Bon,
merci,
ouais. Nous, on est à fond derrière toi. N'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit. On va relayer notamment tes messages. Si tu as besoin d'aide, besoin d'encouragement, si les gens peuvent venir courir avec toi aussi, on sera là pour te pousser et t'appuyer, Duncan. Ok?
Ok, trop bien.
Et puis tu viendras nous débriefer ça, évidemment. Okay. On s'interdit pas quelques coups de fil pendant le défi, justement. D'un coup, comment ça va, etc. Machin.
Ouais, bah, ce sera peut-être le soir, du coup.
Ouais, le soir, plutôt le soir, évidemment. Ou dans le camping-car, c'est ça. Merci d'un camp. Merci, Maître Yodu. On lui
Merci
souhaite toute
tous.
La force au sacré Dunk. Et évidemment, on va pas le lâcher, hein, Johan.
Ah non, il a intérêt à rien lâcher, là. Sans borne, allez. Allez,
Dunk. Exactement. Et puis faites comme d'un camp. Quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous.
RMC Running.